Bonjour chers fidèles d'IDFM, aujourd'hui je vous convie dans Rendez-vous compte à un voyage express entre la tour de Babel et ChatGPT, entre la langue de Shakespeare et celle de Molière, Rendez-vous compte. Bonjour Béatrice.
Bonjour Didier.
Béatrice Guisse.
Oui, présente.
Oui, présente, voilà, c'est ça. Bonjour aussi à Marine. Marine Gauvin, qui lève la main parce qu'elle n'a pas de micro, là. Marine, c'est notre illustratrice qui, comme à chaque émission, va croquer en direct notre invité. Croquis, vous retrouverez sur la page du podcast de notre émission, ainsi que les références de Marine. Béatrice, valdoisienne, depuis longtemps.
Depuis 48 ans, en fait.
Ouais, c'est pas mal. Saint-Loupienne en particulier.
Saint-Loupienne pendant 28 ans. D'accord. Et maintenant tabernacienne depuis 20 ans.
Donc Taverny.
Taverny.
Voilà. Béatrice, tu as longtemps exercé une profession principale autour du livre.
Oui.
Laquelle ?
Eh bien, j'étais documentaliste. Documentaliste parce que j'avais fait une licence de lettres. Et puis, quand j'ai eu besoin de travailler après ma petite session en tant que mère de famille nombreuse, eh bien, les lycéens manifestaient pour avoir des documentalistes. Je me suis dit, bingo, c'est ça qu'il me faut.
Ah, c'est pas mal, ça rime. Alors, documentaliste au collège de Saint-Leu.
Oui.
Vanda Landowska.
D'abord à Gennevilliers.
D'accord.
Et puis ensuite, le Havre de Paix à Saint-Leu.
Alors, Havre de Paix, documentaliste, mais en même temps, une autre activité liée aussi au livre, laquelle ?
Alors, en fait, ce n'est qu'à la retraite que j'ai commencé à traduire, mais parce que j'ai fait mes études d'anglais tout en travaillant comme documentaliste au collège Vanda Landowska. Et ensuite, à la retraite, j'ai passé le concours pour faire le master de traduction littéraire professionnelle à l'Institut Charles V. Et je l'ai eu. Donc, dès que j'ai été à la retraite, j'ai démarré sur des études et j'étais à quelques centimètres au-dessus du sol pendant toute l'année. D'accord. En lévitation, tellement j'étais heureuse.
Il faut parfois atteindre l'âge de la retraite pour être pour léviter, si
voilà,
je peux dire.
Pour léviter sans apostrophe.
Voilà. traduction de romans anglais.
Romans de l'anglais ou de l'américain, aussi, oui.
Plutôt des romans de femmes, d'autrices femmes,
pas
non
forcément, pas forcément. J'ai traduit 4 romans d'un auteur anglais, des romans historiques et d'aventures, un peu à la Indiana Jones. Il s'appelle David Gibbons et il a un héros qui s'appelle Jack Howard et qui est archéologue comme lui. Et puis plongeur sous-marin. Donc, son héros est un peu un double de lui-même. Et sans surprise, il fait des découvertes archéologiques extraordinaires.
Forcément.
Moyen de compenser peut-être le fait que c'est difficile de faire des découvertes archéologiques extraordinaires.
Ouais. Donc à lire, est-ce qu'on peut les lire ces livres ?
Bien sûr.
Comment
bien
on fait ? Il faudra donner des titres, par exemple.
Oui.
Ils sont toujours.
Alors l'auteur c'est David Gibbons. J'ai traduit Testament, j'ai traduit Inquisition et j'ai traduit 2 romans qui sont sur la Rome ancienne, sur l'Antiquité. Donc c'est Rome détruire Carthage et l'épée d'Attila qui est effectivement a pour sujet Attila et l'invasion des Huns et la bataille qui s'est ensuivie et qui a donné la victoire
aux barbares.
Pas aux barbares, non, au contraire. Au contraire, on a repoussé les barbares, là.
On a repoussé Attila.
On a repoussé Attila.
Ah bon ? Il va falloir que je revoie un peu mon histoire de l'Antiquité.
Oui.
Voilà. Alors, quand même, Béatrice, tu es là aussi parce que récemment, tu as donné une conférence qui s'intitulait comment ?
De Babel à l'IA, le quotidien d'une traductrice. Donc, j'y ai parlé de l'histoire de la traduction qui est importante parce que c'est un métier presque aussi vieux que le monde, enfin que le monde écrivant, on va dire, puisque traduire, c'est écrire aussi. De la progression du métier, des progrès qu'on a faits, des questions qu'on s'est posées tout au long de l'histoire de la traduction, c'est-à-dire comment traduire pour bien traduire. Ça, c'est une problématique
Et ne pas trahir, selon le fameux proverbe.
Alors, je dois admettre en tant que traductrice qu'on est quelquefois un peu obligé de trahir. Une traduction parfaite est absolument impossible. Chaque langue a ses aptitudes à décrire, à penser, à des aptitudes différentes d'une langue à l'autre. Pour passer d'une langue à l'autre, il faut faire une gymnastique assez particulière où quelquefois on perd quelque chose. mais on essaye de le rattraper par ailleurs pour rendre justice au texte et aux intentions de l'auteur, ce qui est le plus important, les intentions de l'auteur.
Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission.
Je m'appelle Arnaud, je suis traducteur-relecteur. C'est quelqu'un, tout simplement, qui traduit ou relit des documents traduits d'une langue étrangère vers sa langue maternelle. Un traducteur-relecteur va traduire pour son client des documents aussi variés qu'un site web ou des documents techniques afin qu'il puisse ouvrir de nouveaux marchés à l'international. À l'heure de la traduction automatique, il est d'autant plus important pour un traducteur-relecteur d'être à l'écoute de son client pour lui permettre de répondre de manière juste, pertinente, à son public cible. En effet, on ne traduit pas de la même façon un document juridique ou une accroche publicitaire. J'ai deux spécificités, c'est que je suis à la fois traducteur de l'anglais, l'allemand, l'espagnol et dans le français, mais je suis aussi terminologue, c'est-à-dire que je crée des glossaires multilingue pour mes clients et m'assure ainsi de la pertinence des termes traduits.
On va marquer une première pause musicale,
oui.
Béatrice. Mm-hmm. Alors tu as choisi
Over the Rainbow par Is.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que la première fois que j'ai entendu ce chant, j'ai été transportée par ce chant, par sa beauté, par la beauté de sa voix, par s'il y avait quelque chose de magique, de magnifique dans ce chant. Voilà.
On écoute un extrait. Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous retrouvons Madame Béatrice Guisse, traductrice littéraire, qui continue à nous parler de sa conférence intitulée « De Babel à l'intelligence artificielle, le quotidien d'une traductrice » qu'elle a proposée le 24 janvier 2026 à la médiathèque « Les temps modernes » de Taverny. Alors simplement le titre de la conférence de Babel à l'intelligence artificielle. Babel, tu peux rappeler un petit peu l'importance de ce lieu biblique.
Alors Babel, selon la tradition biblique, oui, Babel, c'est le moment où les hommes ont été en quelque sorte divisés par la colère de Dieu parce qu'ils avaient cherché à atteindre le ciel. Mais ça, c'est un peu l'histoire sainte, l'image d'Épinal. En fait, si on lit attentivement la Genèse... Eh bien, avant Babel, il y avait déjà différentes langues qui existaient. Et en fait, les hommes, d'après certaines interprétations, étaient plutôt accusés de vouloir uniformiser les choses. Et donc, la diversité des langues est arrivée pour enrichir en réalité. Parce que la diversité des langues est une richesse. On n'arrivera jamais à décrire le réel, la pensée, d'une façon parfaite. Et chaque langue a sa façon de le faire et elles s'enrichissent mutuellement. C'est ça qui est fabuleux et qui m'enthousiasme.
Alors, des débuts gravés dans la pierre.
Oui, parce qu'on n'avait pas à l'époque de Sumer, puisque c'est eux qui ont inventé l'écriture, on avait des tablettes d'argile. Et quand on voulait garder un texte un peu plus longtemps, un texte plus important, on le gravait dans la pierre. Comme les inscriptions de Behistoun, qui sont en Iran. Malheureusement, j'espère qu'elles ne seront pas frappées par les bombes israéliennes ou américaines. Cette inscription elle est en plusieurs langues, en élamite, en iranien, et puis je ne sais plus laquelle troisième. Et elle célèbre les victoires de Darius. Darius, donc, qui a...
Le roi perse.
Voilà, c'est ça, qui a conquis certains territoires et qui avait besoin de faire célébrer sa gloire en plusieurs langues pour que tous ses sujets comprennent.
Et puis, autre pierre, disons, mythique, la pierre de Rosette.
Tout à fait, que tout le monde connaît et qui a permis, tout comme Behistoun a permis de déchiffrer le cunéiforme, la pierre de Rosette a permis de déchiffrer les hiéroglyphes.
Voilà, Champollion.
Voilà.
Français.
Alors, aidé par un Anglais, il faut le reconnaître.
Bon, d'accord, on accepte.
Oui. Ils ont travaillé un peu tous les deux. Champollion a un peu pillé ce qu'a fait l'anglais. Thomas Young, si je me souviens bien. Voilà. Bon, c'est quand on voit la pierre de Rosette au British Museum, puisqu'elle est là-bas. Il n'est fait aucune mention de Champollion, ce que j'ai trouvé un peu choquant, mais en même temps. Nous, on n'est pas très sympa non plus avec les Anglais en ne leur rendant pas ce qu'on leur doit.
On va quand même leur prêter la tapisserie de Bayeux.
Tout à fait.
Voilà. Alors, chose que j'ai découverte aussi, c'est que le premier traducteur européen connu était un esclave affranchi.
Alors, tout à fait, oui.
Ouais.
Mm-hmm. Oui. Eh bien, les Romains ont beaucoup... admirer la civilisation grecque, on traduit beaucoup d'auteurs grecs et avait beaucoup d'esclaves d'origine grecque, ce qui leur a permis, intelligemment, ils ont accueilli cette culture, ils l'ont absorbée, ils ont traduit. C'est une des façons de faire s'enrichir mutuellement les cultures, la traduction. Voilà, vive les traducteurs.
Voilà. Autre personnage qui a été très important, Saint Jérôme.
Oui, tout à fait.
Quel rôle a-t-il joué ?
Voilà. Alors, Saint Jérôme a été le traducteur de la Bible en latin. C'est le pape Damas Ier qui lui a demandé de faire cette traduction parce qu'elle n'existait qu'en grec. Elle avait été traduite en grec par les Septante. Et Saint Jérôme s'est appuyé sur cette traduction grecque et sur le texte original en hébreu, puisqu'il avait appris l'hébreu. Et donc, il a pu faire une traduction de la Bible qui a été reconnue par l'Église au moment du Concile de Trente et qui est appelée la Vulgate, a été reconnue par l'Église.
Avec peut-être quand même une erreur possible dans la traduction qui fait qu'on pense que le fruit défendu, croqué par Adam et Ève, aurait été la pomme, alors qu'en fait, c'est une erreur quand même de traduction au départ.
Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une adaptation qui permet au lecteur de comprendre de quoi il retourne ? Si on avait parlé d'un fruit exotique qui n'existait qu'au Moyen-Orient, ou comme la grenade, ou je ne sais pas à l'époque, ce qui existait, ce qui était connu par les gens, est-ce que ça aurait été compris ? Voilà comment, quelquefois, un traducteur peut être considéré comme un traître parce qu'il fait des adaptations pour être compris. Mais c'est aussi une façon de s'enrichir parce que ça donne à comprendre un texte et une fois qu'il sera bien compris, on pourra dire « Ah mais oui, à l'origine, ce n'était pas vraiment une pomme, c'était un autre fruit. Vous voyez, c'est aussi une des choses qu'on fait en traduction, mais sans en avoir honte. Et puis, à mesure que l'histoire de la culture évolue, la compréhension des textes, etc., eh bien, on peut adapter et on pourra peut-être traduire par un autre fruit que pomme, même si c'est profondément inscrit dans la mémoire collective.
Alors qu'en fait, dans la Genèse, c'était plutôt le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal.
Oui.
Et ni une figue, ni une pomme, quoi.
Oui, oui, tout
et donc,
à fait.
La traduction a assimilé le fruit de la connaissance, le bien et le mal, avec la pomme.
Oui.
Et on se demande pourquoi Dieu aurait interdit à Adam et Ève de manger des pommes. Mais bon,
oui.
Voilà. Par contre, le fait qu'ils connaissent ce qui est bien et ce qui est mal, c'est une autre valeur, peut-être.
Tout à fait.
On
oui,
en parlera
oui, oui.
tout à l'heure au café.
Bien sûr.
Béatrice, deuxième pause musicale, Louis mm-hmm. Armstrong.
Oui.
Quelle chanson ?
Alors, c'est « What a wonderful world
ouais. »
and it's beautiful.
On écoute.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte où cette semaine je reçois Béatrice qui nous parle de la traduction en général depuis l'Antiquité et qui va nous parler un peu plus tard de sa propre activité de traductrice. Alors Béatrice, après l'Antiquité, la Renaissance,
mm-hmm.
donc des étapes essentielles,
mm-hmm.
par exemple.
Alors, il faut dire que la Renaissance a été préparée en grande partie par des traductions. Les Arabes, donc l'expansion de l'islam a fait qu'ils sont arrivés jusqu'en Espagne, qu'ils ont apporté des textes grecs qu'ils ont traduits en arabe. Et nous, ces textes grecs, on les a traduits en latin. Il y a eu la fondation de l'école de Tolède, où beaucoup d'érudits sont allés pour soit apprendre à traduire, soit récupérer des textes. Et en particulier, il y a eu le Coran qui a été, dont Pierre le Vénérable a ordonné la traduction. Donc, Coran que les Arabes n'auraient jamais traduit eux-mêmes, mais qui a été traduit par Pierre le Vénérable, d'ailleurs pour s'opposer au Coran. Mais bon, voilà. Mais c'est, voilà, il y a eu tout un mouvement de traduction de textes qui a permis la Renaissance, qui a permis la connaissance de tous ces textes anciens.
Voilà. Et puis aussi, la Renaissance, c'est la traduction dans les langues nationales, si on peut dire, de la Bible.
Aussi, tout à fait.
Qui a joué un rôle essentiel, notamment dans l'émergence des courants protestants, on va dire.
Tout à fait, tout à fait. Et aussi dans l'évolution de la langue allemande. Puisque Luther, alors Luther, c'est extraordinaire, j'ai découvert ça en faisant ma recherche sur la traduction, Luther a fait un travail extraordinaire sur la langue et sur le texte d'origine. Et il s'est fait aider par différents spécialistes. Il a même été donc un travail d'érudit et un travail de comment, par exemple, pour citer un exemple, il est allé voir des bouchers pour savoir comment on nommait telle et telle pièce, parce qu'il fallait décrire les sacrifices, c'était très important. Et donc, cette langue qu'il a fait fleurir dans cette traduction de la Bible, elle a ensuite été adoptée. Ce que les politiques n'arrivaient pas à faire, ils étaient impuissants, mais un linguiste, un traducteur, a réussi à unifier la langue allemande sur tout le territoire allemand. Et ça, c'est parce que c'était un travail vraiment très, à la fois érudit et de terrain. C'est ça que je trouve très bien. Le traducteur ne doit pas être hors sol. Il doit vraiment pouvoir visualiser les choses. Enfin, c'est très important d'être près des choses et des gens.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte où nous retrouvons Madame Béatrice Guise, traductrice littéraire, qui a proposé sa conférence De Babel à l'intelligence artificielle, le quotidien d'une traductrice, le 24 janvier 2026 à la médiathèque Les Temps modernes de Taverny, et qui nous parle maintenant d'un moment décisif pour la langue française. Alors par contre, intervention très politique celle-là par rapport à la langue, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts.
Tout à fait.
François Ier.
Oui.
1539.
Oui, oui, oui.
Alors, vraiment, c'est un acte politique, là.
Tout à fait. Oui. Parce que, enfin, il voulait, je pense que, enfin, François Ier voulait mettre la justice à la portée du justiciable. Les textes juridiques, alors que tout était rendu en latin, Bien sûr, peu de gens connaissaient le latin, sauf les lettrés. Et donc, effectivement, c'était très politique de vouloir que tous les textes officiels, non pas seulement ceux de la justice, mais les textes officiels, soient en langue vernaculaire. Du coup, ben, ça a permis aussi d'unifier la langue. Ça a été un des facteurs qui ont permis d'unifier le français aussi.
Et le pays, puisque le français a remplacé à la fois le latin et les langues régionales aussi.
Tout à fait.
Donc, c'était la monarchie absolue, comme on l'a dit, qui se mettait en place avec la centralisation. Grâce... Alors, je vous invite tous à aller à la Cité de la langue française à Villers-Cotterêts, justement, où on peut voir cette ordonnance. Et puis aussi, un travail formidable de l'histoire de la langue française et aussi de la traduction. C'est très facile d'y aller depuis la gare du Nord en train. En une demi-heure, on y est à peu près. Et ça vaut vraiment le coup.
À manier avec précaution, ce petit document a près de 500 ans et pèse lourd dans l'histoire de France. Cette version imprimée de la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts arrive dans la nouvelle Cité internationale de la langue française, exceptionnellement sortie des archives nationales.
À ma connaissance, il n'a pas été exposé encore, il n'a pas été sorti des murs. Donc c'est aussi un événement important à ce titre.
Ce texte, un recueil de 192 articles à valeur de loi, a été signé ici même, au château de Villers-Cotterêts, par François Ier en août 1539. Un document majeur pour unifier le pays. Il impose dorénavant d'écrire les actes de jugement en français.
C'est l'article 111 qui dit, eh bien, dans quelle langue faut-il que tout cela soit écrit ? En langue maternelle française. Et c'est cet article donc, qui est présenté ici, sur la page de gauche. Qu'est-ce que cette langue maternelle française, dans un moment où l'essentiel des sujets du roi de France ne parlent pas eux-mêmes le français ? Hein, on peut se le demander. Mais ça a toujours été interprété par la suite comme faisant référence au français. Et donc cette ordonnance, elle impose le français. Et ces deux articles sont les plus anciens textes de loi encore en vigueur aujourd'hui.
Le document ne pouvait trouver meilleure place qu'au cœur de la nouvelle cité. Déposé religieusement dans cette vitrine, il va constituer le clou des 1200 mètres carrés de visite sur le thème de l'aventure de la langue française.
On avait besoin, pour raconter l'histoire, de la retrouver. Et puis, elle est le fil conducteur pour nous tous. Et qu'on habite ici ou qu'on vienne du bout du monde, cette ordonnance est un symbole extrêmement fort et qui a fait l'histoire vraiment de cette cité.
Le public va pouvoir découvrir ce morceau de patrimoine à compter de l'inauguration de la cité la semaine prochaine, mais pour 4 mois seulement, afin de le préserver d'une dégradation trop rapide.
François Ier avait parfaitement compris l'importance de traduire en langue française tous les textes juridiques et d'en renforcer ainsi la portée dans les lois comme dans les esprits. Eh bien, Renaud reprendra l'idée en interprétant en langue anglaise Miss Maggie, son pamphlet aux paroles virulentes et insultantes envers Margaret Thatcher, Premier ministre britannique de l'époque, qui pratiquait une véritable casse sociale dramatique pour la classe ouvrière. Chanson qui, bien entendu, avait déclenché un mini-scandale en Angleterre. On écoute.
Women of the world or streets, so very often just the same. I love everyone I meet, either fame or be their play. Down to the last stupid cow, I praise with every word I utter. I'm disgusted by men now, with their morals from the gutter. But there's no woman in this land quite as stupid as her brother, nor so vain or underhand, except maybe Madame Thatcher. Lady, I love you now, I do, 'cause when a sport becomes a war, there's no girls or very few among those fans who yell for more. Those fanatics of the games, beer and hate just makes them mean. They call the other side such names and make such gods of their own team. There is no female hooligan in Basilic filled with murder. No, not even in Britain, except for sure Madame Thatcher. Of woman just because when she's sitting at the wheel, there's no man-like sense of loss, no urge to kill is yours to feel. For a slightly damaged headlight or 2 fingers in the air,
There are those who wish to fight to the death if they but dare. And a pure safe favorite sign, there's no woman so vulgar to use this symbol all the time, except perhaps Madame Thatcher. Make you pant and sigh. With those hunters of the night who jump on creatures that are frail, or a child in their gun sight, I have yet to see a female. There is no woman low enough to spit and polish a revolver, just to feel so bloody tough, except for sure Madame Thatcher. Atom bomb was never made by a human female brain, and no female hand has laid the fewest peoples of the plain. Palestinians and Armenians bear their witness from the grave that a genocide is masculine, like an SS or Green Beret. In this bloody mass of men, each assassin is a brother. There's no woman rivals them, except of course Madame Thatcher. And nasty woman above all, I love your gentleness so mild. Man draws strength from his own balls, which like his gun he shoots from wild. The final curtain draws, he joins the cretins in the harvest, playing football, playing wars, or who can be the fathers? I will join the doggy host and love my days on earth, as my day-to-day lambost, I would use Madame Thatcher.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte où nous retrouvons Madame Béatrice Guisse, traductrice littéraire, qui continue à nous parler de l'évolution de la langue française à partir du XVIIe siècle. XVIIe siècle, Malherbe.
Alors, enfin Malherbe vin, oui.
C'est ça.
Voilà. Donc Malherbe, lui, enfin ça a été plutôt au XVIIe siècle. Au moment de la Renaissance, il y a eu une floraison donc des traductions, grâce à François Ier entre autres. Et puis il y a eu un coup d'arrêt avec la défense et illustration de la langue française, puisque ces poètes pensaient qu'il était il n'était pas possible de traduire justement la poésie. Et donc, il y a eu un petit peu un coup d'arrêt, d'autant plus que des traducteurs, Étienne Dolet en particulier, a été jugé et exécuté parce que, il avait traduit inconsidérément certaines choses qui étaient un peu contre les théories de l'Église. Voilà. Bon. Donc, François Ier n'étant plus là pour protéger les auteurs et les traducteurs, il y a eu un petit coup d'arrêt. Et puis, de nouveau, avec Malherbe, avec le 17e, il y a eu de nouveau des traductions. Et là, on est allé un peu plus vers les belles infidèles. On considérait, puisqu'on voulait mettre en valeur la langue française, le classicisme, etc., eh bien, on considérait qu'il fallait que ça soit du beau français, que ça soit du français. À la limite, on ne savait plus que c'était une traduction. Et ça, c'est une problématique qui traverse toute l'histoire de la
traduction.
Qui continue,
effectivement. Voilà. Alors, autre étape importante, Antoine Galland.
Antoine Galland, Les Mille et Une Nuits, absolument. Mmh. Alors, Antoine Galland a trouvé ses textes et puis, il les a traduits. Et effectivement, il les a traduits un peu en étant un peu infidèle, en inventant deux, trois trucs au passage. Mais ça a eu un grand succès et ça a eu le mérite de faire découvrir ces contes extraordinaires et cette civilisation. Ça a donné à connaître, ça a donné une ouverture sur cette civilisation qu'on ne connaissait pas.
Non.
Et ça, c'est un des grands rôles de la traduction.
Voilà. et un succès phénoménal.
Succès phénoménal.
Hein, des Mille et une nuits par Antoine Galland. Oui. Et puis, au siècle des Lumières, avec la Révolution française, le droit d'auteur apparaît.
Alors, déjà avant la Révolution, il y avait, Diderot avait réclamé, Beaumarchais, et finalement, ça a été acté pendant la Révolution française en 1791 et 1793, si j'ai bonne mémoire.
C'est ça.
Voilà. donc, la reconnaissance du droit d'auteur. Mmh. Oui, oui, oui. Parce que avant, c'était les libraires éditeurs qui détenaient les droits et les auteurs comme les traducteurs ne gagnaient pas grand-chose. Ils avaient besoin de mécènes pour vivre. Et là, ça les a rendus un peu plus indépendants et leur activité un peu plus rentable quand même.
IDFM, 98FM.
Nous l'avons entendu, lorsque Renaud chante en anglais son très polémique Miss Maggie, c'est pour provoquer directement Madame Thatcher, alors première ministre du Royaume-Uni. Eh bien, disons que c'est le contraire avec Leonard Cohen qui, en 1975, interprète en anglais et en français, Le Partisan, son célèbre hommage à la résistance anti-nazie pendant la Seconde Guerre.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me livrent signe toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM. Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM et nous retrouvons Béatrice Guisse, hein, qui nous parle de la traduction depuis les origines. Avec, alors on va parler d'aujourd'hui, ce que c'est qu'être traducteur, traductrice aujourd'hui, le quotidien d'une traductrice. Alors comment, quelle est la journée type d'une traductrice qui travaille?
Alors, moi, en ce qui me concerne, c'est plutôt une journée presque non-stop. Parce que souvent, eh bien, on a des délais à respecter et les éditeurs sont quelquefois un peu lents à vous fournir le texte. Enfin, il y a des délais, etc. Mais par contre, la date butoir, il faut la respecter. Donc, c'est un peu du non-stop. C'est un peu ma façon de travailler parce que aussi, j'ai besoin d'être vraiment dans le texte, d'être plongée dedans, d'être... Et comme ça, ça vient. Ça vient, j'allais dire presque tout seul, non, quelquefois c'est
difficile. C'est du travail,
mais
pas de l'inspiration comme ça.
Oui, voilà, oui. Quand on est dans le texte, on est plus efficace, voilà. Parce que si on travaille par petits bouts, ça ne va pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment des journées quasiment non-stop. Et c'est vrai que je traduis assez vite, je fais à peu près 20 feuillets par jour, mais en m'y attelant vraiment beaucoup. Il faut savoir que l'unité de mesure, si je puis dire, en traduction, c'est le feuillet. C'est une page de 1600 signes typographiques et on est rémunéré au feuillet, temps du feuillet.
Alors, est-ce que la rémunération est, disons, fixe pour n'importe quel feuillet ou ça dépend, c'est un contrat
Alors, c'est un contrat. On signe un contrat avec l'éditeur qui fixe, entre autres choses, la rémunération au feuillet. Alors, la rémunération est variable suivant la notoriété du traducteur, suivant aussi les moyens de l'éditeur, peut-être un peu de la difficulté de la traduction ou pas. Et bon, l'Association des traducteurs littéraires de France, auquel j'appartiens, qui pense à se transformer en syndicat d'ailleurs, se bat pour qu'il y ait une juste rémunération des traducteurs.
Est-ce que forcément le nom de la traductrice ou du traducteur apparaît sur le livre?
Alors, c'est une obligation légale. Elle apparaît au moins sur la page de titre, pas la page de couverture, hein, la page de titre qui est à l'intérieur du livre et où figure le titre et le nom de l'auteur et aussi le nom du traducteur et sur la quatrième de couverture aussi. Ça, c'est légal. Et on peut, certains éditeurs le rajoutent sur la page de couverture, la première de couverture. Voilà, mais c'est une obligation.
Alors, le quotidien du travail d'une traductrice, c'est souvent une deuxième, voire une troisième lecture.
Ah oui, alors, bien, quand on prend une traduction, on va dire, déjà, l'éditeur va commencer par vous faire lire le livre pour que vous puissiez dire, ben voilà, je me sens à la hauteur de le faire, ça me correspond, ça marche. Et il va falloir, le traducteur, si c'est la première traduction pour cet éditeur surtout, il va falloir faire un essai d'une dizaine de feuillets qu'on présente à l'éditeur et qui va juger si ça correspond à ce qu'il attend, si ça correspond à la voix de l'auteur. Et donc, il va confier ou pas la traduction au traducteur. Et donc ensuite, quelle était la question? Je ne sais plus quelle était la question.
Moi non plus. Oui, deux ou trois relectures. Donc.
Oui, c'est ça. Et donc, après cela, voilà. Après cela, eh bien, on va effectivement faire plusieurs relectures, une ou deux au moins, tout en prenant des notes et tout en faisant des recherches. Par exemple, les romans historiques que j'ai traduits, il fallait absolument faire des recherches pour ne pas faire d'anachronisme, pour être dans le ton. Par exemple, quand on est dans la peau d'un personnage du VIe siècle avant Jésus-Christ, ben, il va falloir essayer de penser avec des mots qui correspondent à ce qu'il peut penser. Et aussi, bon, d'écrire le décor, les armes, les objets, d'une façon cohérente avec l'histoire.
Devenir aussi un historien, finalement.
Voilà, un petit peu. Puis aussi un technicien, par exemple, les romans de David Gibbons. Il y a beaucoup d'épisodes de plongée sous-marine. Et donc, heureusement que je connaissais quelqu'un qui faisait de la plongée pour lui demander, pour être sûr que je ne me trompais pas. Parce qu'il ne faut pas se moquer du lecteur non plus. Le lecteur est important. Si un lecteur spécialiste lit des bêtises, ça ne va pas du tout. Donc, il faut se documenter. Voilà, donc c'est un gros travail de documentation. Repérer aussi les occurrences, les répétitions qui sont voulues au fil du texte, enfin des choses comme ça. Voilà. Et après, on se met au boulot, au quotidien, à traduire feuillet par feuillet.
IDFM, 98FM.
Thème de notre rencontre d'aujourd'hui avec Madame Béatrice Guiss, qui nous a parlé de sa conférence de Babel à l'intelligence artificielle, le quotidien d'une traductrice, du 24 janvier 2026 à la médiathèque Les Temps modernes de Taverny. Eh bien, la traduction d'une langue à l'autre n'est pas forcément un travail sérieux de linguistique. On va retrouver Renaud, mais cette fois avec un titre beaucoup plus romantique, que Miss Maggie, que nous avons entendu précédemment. Cette fois, Renaud imagine la déclaration d'amour un peu confuse qu'un jeune banlieusard français tente de formuler à une jeune anglaise. It's not because you are, chanson de Renaud.
I have rencontred you. You was a jeune fille au pair, and I put a spell on you, and you wrote a pell to me. Together we go partout. On my mob, it was super. It was Friday on my mind. It was a story d'amour. It is not because you are, I love you. Because I do, c'est pas parce que you are me, que I am you, que I am you. You was really beautiful in the middle of the fool. Don't let me misunderstood, don't let me, sinon I would. My loving, my marshmallow, you are belle and I are beau. Give me all what you have. I say thank you. You are bien brave. It is not because you are. I love you. Because I do. C'est pas parce que you are me. Que I am you. Que I am you. This is a musical bridge. I wanted marry with you and make love very beaucoup. To have a max of children, just like Stone and Chardin. But one day that must arrive, together we disputed. For a stupid story of freak, we decide to divorce. It is not because you are, I love you. Because I do, c'est pas parce que you are me, que I am you, que I am you. You shouted comme une madeleine, not me, I have my dignity. You tell me you are a sale mec, I tell you, poil to the bec. That's comme ça that you thank me, to have learning you English. Et that's not you qui m'a appris. My grandfather was roast beef. It is not because you are, I love you. Because I do. C'est pas parce que you are me, que I am you, que I am you. It is not because you are, I love you. Because I do. C'est pas parce que you are me, que I am you, que I am you, que I am you.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous retrouvons Madame Béatrice Guiss, traductrice littéraire. Alors il y a aussi une question qui se pose souvent, c'est quand on passe de l'anglais au français, c'est le problème du tu ou du vous. Alors,
tout à fait.
Qui n'existe pas en anglais, le tu, sauf
Pour s'adresser à Dieu,
bon,
oui.
Ce qui n'est pas le cas dans tous les romans, on va dire.
C'est tombé en désuétude, on va dire.
Alors, donc,
on n'a qu'une façon de s'adresser aux personnes. Et alors, bon, c'est déjà, il va falloir choisir, est-ce que ces gens vont se tutoyer ou se vouvoyer ? Alors, bon, c'est une chose d'ailleurs qui peut évoluer avec le temps. Déjà dans le temps de la relation de ces personnes et dans le temps, s'il faut retraduire, peut-être que les choses vont évoluer aussi. Alors, mais d'un autre côté, bon, il y a ce choix à faire pour le traducteur, mais d'un autre côté, ça peut avoir du sens. Ça peut rajouter du sens. C'est un outil que le français possède, que l'anglais ne possède pas. Donc, il y a des situations où ça peut signifier quelque chose. Et par exemple, j'avais donné l'exemple de deux jeunes gens. Elle aimerait bien sortir avec lui, qui est un jeune indien, mais il est obnubilé par la recherche de sa sœur. Et à un moment, donc ils se vouvoient, il y a une certaine distance, surtout les Indiens, ils sont assez comme ça, distants souvent. Et à un moment, ils sont tellement contents, ils croient avoir retrouvé la sœur, elle prend l'initiative de l'embrasser. Et on peut imaginer, comme souvent dans ce genre de situation, qu'on va passer du vous ou tu, au tu, pardon. Et en fait, comme moi je sais que ça ne va pas se concrétiser, qu'ils vont échouer dans leur recherche, eh bien, je continue à les faire se vouvoyer. C'est lui qui parle en premier et il dit vous et il marque une distance tout de suite. Et je trouve que c'est très signifiant, c'est intéressant de pouvoir utiliser cet outil.
Dans ce cas-là, le tu, tu.
Le tu, tu.
On y reviendra bientôt.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte où nous retrouvons Béatrice Guisse, traductrice littéraire, qui nous parle maintenant des difficultés à traduire ce qui, en français comme en anglais, accroche directement le lecteur. Alors, autre problème aussi, la traduction des titres. Parce que, alors, franchement, quand on voit le titre original en anglais et le titre français, des fois, mais c'est comme pour les films, on se demande, mais où vont-ils chercher ça?
Alors, les titres, c'est très important pour l'éditeur, puisque le titre, c'est la première chose qu'on voit et c'est ce qui va déclencher peut-être l'acte d'achat. Hein. Qu'est-ce qui fait le lecteur dans la librairie? Il regarde le titre, il regarde l'auteur, il tourne la quatrième de couverture pour voir le résumé. Mais le titre, c'est ça qui va l'accrocher. Donc, il faut des titres accrocheurs, en fait. Bon, quelquefois, c'est tout simple. Hein. Quand j'ai traduit « testament », je l'ai traduit par « testament ». « Inquisition », je l'ai traduit par « inquisition », aucun problème. Mais il y a d'autres titres qui sont plus compliqués. Par exemple, le livre que j'ai traduit pour Gallimard, « When the world was steady », ce qui signifie « lorsque le monde était stable ». Est-ce que ça vous attire, ça, dans une librairie? Donc, ça n'allait pas. Mais il se trouvait justement que cette phrase était dans le corps du texte, vers la fin du texte. C'était en balinais. Au cours d'une conversation avec une balinaise, l'une des héroïnes s'entend dire « When the world was steady ». Et c'était à l'époque où les touristes n'étaient pas encore arrivés, où les Européens d'abord et les touristes ensuite n'étaient pas encore arrivés. Et tout de suite, j'ai pensé, alors que je me creusais la tête pour le titre avant de tomber sur ce passage, eh bien, j'ai pensé avant le bouleversement du monde. Et ça a plus de sens et c'est peut-être un peu plus accrocheur. Enfin, ça va accrocher certains lecteurs. Et voilà. Mais alors, j'avais pris l'exemple aussi d'un autre titre traduit par Nicolas Richard, qui traduit beaucoup de textes américains. Et en particulier, il avait traduit un livre par un auteur qui avait fait l'expérience de 29 drogues différentes et avait consacré un chapitre à chacune de ces drogues. Et le livre en anglais était intitulé « Drugs ». Et c'était percutant, tout comme le style de l'auteur. Et Nicolas Richard aurait voulu que ça soit traduit soit par « drogue » au singulier, en générique, soit par « drogue » au pluriel, soit garder le titre anglais « drugs ». Et l'éditeur n'en a pas voulu et il a choisi « voyage au bout de la blanche ». Et ça accroche.
Ça, c'est français, ça. Voilà, donc, l'esprit français.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'était tout à fait contre l'intention de l'auteur.
Oui. Voilà. Mais on est pas mal, finalement, les Français. Béatrice, un dernier mot. Alors, ChatGPT, l'intelligence artificielle et la traduction.
Alors, malheureusement, il y a déjà des éditeurs qui utilisent ChatGPT pour faire leur traduction. Ils ne renouvellent pas les contrats. Je pense à une division d'Harper & Collins qui est Harlequin. Ce sont des romances. Bon, ce n'est pas de la grande littérature. C'est assez formaté, d'ailleurs. Et tous les gens qui traduisaient pour Harlequin ne voient pas leur contrat renouvelé parce qu'ils sont remplacés par ChatGPT. Bon, alors, on peut comparer des traductions. C'est vrai que l'intelligence artificielle s'améliore de plus en plus en pillant d'ailleurs le travail des traducteurs. Mais ça, j'espère que ça va se résoudre en justice et que les traducteurs seront rémunérés et ne seront pas pillés, surtout. Mais alors, le danger de faire traduire par ChatGPT, c'est qu'il s'appuie déjà sur des traductions existantes et à force de s'appuyer sur des traductions existantes, ils vont finir par s'appuyer sur leurs propres traductions. Et ça va complètement dénaturer, lisser, déshydrater les textes. Voilà, je pense qu'on va vers ça. Et c'est très, très dommage.
Voilà, Béatrice, notre émission se termine déjà. Est-ce que j'ai bien traduit ton travail? Est-ce qu'on a bien travaillé ensemble?
Ben, j'espère. Et j'espère que les gens qui s'intéressent à la traduction trouveront quelques réponses dans ce qu'on a dit. Voilà. Et de l'intérêt. Et j'espère qu'ils auront le réflexe maintenant de regarder le nom du traducteur, qui est quand même important, parce que c'est le texte du traducteur que vous lisez quand vous lisez une traduction.
Voilà, merci Béatrice. Merci aussi Marine pour les croquis que je vois à nouveau. À chaque fois, pour moi, c'est un effet un peu magique. Ces croquis que vous retrouverez sur la page du podcast. Voilà, et Marine, on donnera aussi tes coordonnées. Merci Marine. Ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré cette semaine à Béatrice Guiz. Béatrice qui nous a parlé de la traduction depuis l'Antiquité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de rendez-vous compte sur IDFM, évidemment. En attendant, je vous retrouve également dimanche matin dans la matinale de Mehdi pour ma chronique Nec plus Ultra consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque.